Études sur Jeanne d'Arc, écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jaugé. Chapitre 6. Accusation de rébellion envers l'Église renouvelée contre Jeanne. Sommaire des interrogatoires concernant cette question. Justification de Jeanne. Jeanne a été condamnée comme hérétique et comme rebelle à l'autorité de l'Église. Ses juges avaient spécialement insisté sur ce dernier point dans la seconde partie du procès. Plusieurs auteurs contemporains n'ont pas craint de renouveler cette imputation calomnieuse et d'adopter l'opinion de l'Université de Paris sur le dernier des 12 chefs d'accusation dirigés contre Jeanne. On n'a point voulu voir dans la vie de cette héroïne la parfaite soumission que tout chrétien doit professer pour les décisions de l'Église. On a cherché à faire de cette sainte un martyr de la libre pensée. Rétablissons la vérité des faits en prouvant que Jeanne a montré une entière obéissance à tout ce que l'Église pouvait exiger d'elle et que son refus de se soumettre en certains points était parfaitement légitime. Voici le résumé des interrogatoires et des réponses de Jeanne concernant cette question. Le 15 mars, Jeanne fut pour la première fois avertie, avec des exhortations charitables, entre guillemets, que si elle a fait quelque chose qui soit contre notre foi, elle s'en doit rapporter à notre Sainte Mère l'Église. Fin de la citation. C'est Jean de La Fontaine qui, en l'absence de Cochon, fit entrer le procès dans cette voie. Jeanne répondit, deux points, « Que mes réponses soient vues et examinées par les clercs, et puis qu'on me dise s'il y a quelque chose contre la foi chrétienne. Je saurai bien à dire par mon conseil ce qu'il en sera, et toutefois s'il y a rien de mal contre la foi chrétienne que notre sire a commandé, je ne le voudrais soutenir et serai bien courroucé d'aller en contre. » Fin de la citation. Elle s'appuyait sur l'autorité de ses saintes. On lui expliqua, entre guillemets, l'Église triomphante et l'Église militante, ce que c'était de l'une et de l'autre, requise que de présent, elle se mit en la détermination de l'Église, soit bien, soit mal, répond, deux points. Je ne vous en répondrai autre chose pour le présent. Fin de la citation. Un instant après, on lui dit, deux points, « Voulez-vous vous soumettre et rapporter à la détermination de l'Église ?»« Toutes mes œuvres, dit-elle, et mes faits sont en la main de Dieu, et je vous certifie que je ne voudrais rien faire ou dire contre la foi chrétienne. Si j'avais rien fait ou dit, qui fût au jugement des clercs contre la foi chrétienne, je ne le voudrais soutenir, mais le bouterouer dehors. » Fin de la citation. On demandait une déclaration plus précise. Réponse. Je ne vous en répondrai maintenant autre chose, mais samedi, envoyez-moi le clerc, si vous ne voulez venir, et je lui répondrai à l'aide de Dieu, et il sera mis en écrit. Fin de la citation. Le samedi 17, les mêmes interrogateurs lui demandèrent de nouveau si, entre guillemets, elle voulait s'en remettre à la détermination de l'Église, de tous ses dits et faits, soit de bien, soit de mal. Fin de la citation. Elle répondit, deux points. Quant à l'Église, je l'aime et je la voudrais soutenir de tout mon pouvoir pour notre foi chrétienne, et ce n'est pas moi qu'on doive empêcher d'aller à l'Église et d'entendre la messe. Quant aux bonnes œuvres que j'ai faites et à ma venue, il faut que je m'en attende au roi du ciel qui m'a envoyé à Charles, fils de Charles, roi de France, qui sera roi de France. Trois points. Fin de la citation. Le juge répéta. Deux points. Vous en rapportez-vous à la détermination de l'Église? Réponse. Je m'en rapporte à notre Seigneur qui m'a envoyé, à Notre-Dame, et à tous les benoués saints et saintes du paradis. Il m'est avis que c'est tout un de notre Seigneur et de l'Église, et qu'on en doit faire de difficultés. Trois points. Fin de la citation. On lui redit très clairement la distinction de l'Église triomphante et de l'Église militante, et on ajouta deux points. Ne voulez-vous pas vous en rapporter à l'Église militante? Réponse. Je suis venu au roi de France de par Dieu, de par la Vierge Marie, et tous les benoués saints et saintes du paradis, et l'Église victorieuse de là-haut, et de leur commandement. Et à cette Église-là, je soumets tous mes bons faits et tout ce que j'ai fait ou à faire. Pour l'Église militante, je n'en répondrai maintenant autre chose. Trois points. Vous semble-t-il que vous soyez tenu de répondre pleinement au pape, vicaire de Dieu, sur tout ce qu'on vous demande rouer, touchant la foi et le fait de votre conscience? Réponse. Menez-moi devant lui, et je répondrai tout ce que je devrais répondre. Fin de la citation. À la lecture des chefs d'accusation, on lui demanda si, entre guillemets, elle voulait se soumettre à l'Église dans le cas où elle eût fait quelque chose contre la foi chrétienne. Elle dit deux points. Samedi après dîner, je répondrai. Fin de la citation. Le samedi, veille de Pâques, Jeanne fut interrogée dans sa prison. On lui répéta la même question, deux points. Si elle voulait s'en rapporter à l'Église, qui est sur la terre, des crimes et délits qu'on lui imputouait, et de tout ce qui touchait son procès. Fin de la citation. Elle répondit, je m'en rapporterai à l'Église militante de ce qu'on me demande, pourvu qu'elle ne me commande choses impossibles à faire.
Qu'appelez-vous impossible?
C'est que les choses que j'ai dites ou faites, comme je l'ai déclaré au procès, touchant les visions et révélations que j'ai eues de par Dieu, je ne les révoquerai pour quelque chose que ce soit, et ce que notre sire m'a fait faire et commandé et commandera, je ne le laisserai à faire pour homme qui vive. Il me serait impossible de le révoquer, et en cas que l'Église me voudrait faire faire autre chose, au contraire, du commandement qui m'a été fait de Dieu, je ne le ferais pour chose quelconque. Fin de la citation. Entre guillemets. Si l'Église militante vous dit que vos révélations sont illusions, ou choses diaboliques, ou superstitions, ou mauvaises choses, vous en rapporterez-vous à l'Église? Réponse. Je m'en rapporterai à notre Seigneur, duquel je ferai toujours le commandement. Je sais bien que ce qui est contenu au procès est venu par le commandement de Dieu, et ce que j'ai affirmé au dit procès avoir fait du commandement de Dieu, il me serait impossible de faire le contraire.
Et si l'Église militante vous commandait de faire le contraire?
Réponse. Je ne m'en rapporterai à homme du monde, fort à notre Seigneur, que je ne fisse toujours son bon commandement.
Ne croyez-vous point que vous soyez sujette à l'Église qui est en terre, c'est à savoir à notre Saint-Père le Pape, aux cardinaux, aux archevêques, évêques et autres prélats de l'Église?
Réponse. Oui, notre sire, Dieu, premier servi.
Avez-vous commandement de vos voix de ne vous point soumettre à l'Église militante, qui est en terre et à son jugement. »
Réponse.
« Je ne réponds chose que je prenne en ma tête. Ce que je réponds, c'est du commandement de mes voies, et elle ne me commande point de ne pas obéir à l'Église, notre sire premier servi. »
Fin de la citation. Isambard atteste en outre au procès de réhabilitation que Jeanne, après s'être fait expliquer ce qu'était le concile de Bâle, s'écria,
Oh, puisqu'en ce lieu sont aucun de notre parti, je veux bien me rendre et soumettre au concile de Bâle. »
Fin de la citation. Selon Pierre Massieu, elle déclara aussi, après avoir entendu la distinction des deux églises, entre guillemets, qu'elle voulait se soumettre à l'Église comme une bonne chrétienne. Fin de la citation. À la première admonition, Jeanne, interrogée de rechef sur ce point, répondit,
Je m'en attends à la réponse que j'en ai faite et à notre Seigneur. Quelque chose qui m'en doive advenir, je n'en ferai ou dirai autre chose que ce que j'ai dit devant, au procès. »
Trois points, fin de la citation. Nicolas Midi la pressant,
Je suis bonne chrétienne, dit-elle. J'ai bien été baptisée et je mourrai comme une bonne chrétienne. »
Fin de la citation. Le mercredi 2 mai, on revint à la charge et on lui réitéra l'explication de l'Église militante,
Je crois bien l'Église d'ici-bas, répliqua-t-elle. Mais de mes faits et dits, ainsi qu'autrefois je l'ai dit, je m'attends et rapporte à Dieu.
Croyez-vous que l'Église puisse se tromper? Réponse.
Je crois bien que l'Église militante ne peut errer ou faillir, mais quant à mes dits et mes faits, je m'en rapporte à Dieu qui m'a fait faire ce que j'ai fait.
Voulez-vous dire que vous n'avez point de juge sur la terre, et notre Saint-Père le Pape n'est-il point votre juge?
Réponse. Je ne vous en dirai autre chose. J'ai bon maître, c'est à savoir notre Seigneur, à qui je m'attends de tout et non à autre.
Si vous ne voulez croire l'Église et l'article Ecclesiam Sanctam Catholicam, vous serez hérétique en vous y obstinant et puni du feu par la sentence d'autres juges.
Réponse. Je ne vous en dirai autre chose, et si je voyais le feu, si dirais-je ce que je vous dis et n'en ferais autre chose.
Si le Concile général, comme notre Saint-Père, les cardinaux et autres membres de l'Église étaient ici, voudriez-vous vous en rapporter et vous soumettre à eux?
Réponse. Vous n'en tirerez de moi autre chose.
Voulez-vous vous soumettre à notre Saint-Père le Pape?
Menez-m'y et je lui répondrai.
Fin de la citation. Le 23 mai, à la seconde admonition, Pierre Maurice lui dit, Croyez-vous que vous ne soyez point tenu de soumettre vos dits et faits à l'Église militante ou à autre qu'à Dieu?
Réponse. La manière que j'ai toujours dite et tenue au procès, je la veux maintenir quant à ce.
Fin de la citation. Au cimetière de Rouen, le 24, elle dit à Erard,
Quant à la soumission à l'Église, je leur ai répondu, je leur ai dit en ce point que toutes les choses que j'ai faites ou que j'ai dites soient envoyées à Rome, de vers notre Saint-Père le Pape, auquel et à Dieu premier je me rapporte, et quant aux dix effets que j'ai faits, je les ai faits de par Dieu. De mes faits et dits, je ne charge personne, ni mon roué, ni autre, et s'il y a quelque faute, c'est à moi et non à autre. Je m'en rapporte à Dieu et à notre Saint-Père, le Pape.
Il ne suffit pas, répondit Erard.
On ne peut aller quérir notre Saint-Père, le pape, si loin. Les ordinaires sont juges, chacun dans leur diocèse. Besoin est que vous vous en rapportiez à notre Sainte Mère l'Église et que vous teniez ce que les clercs et gens ayant de ce connaissance ont déterminé. » Fin de la citation. On la somma ensuite d'abjurer. Massieu lui expliqua le sens de ce mot et lui conseilla de s'en rapporter à l'Église. Elle dit alors à haute voix, Je m'en rapporte à l'Église universelle, si je dois abjurer ou non. » Tu abjureras présentement, ou tu seras ars, brûlé, aujourd'hui même, s'écria Erard. En même temps, tous la pressent de se soumettre et l'engagent à avoir pitié de sa propre vie. Elle dit enfin, Je veux tenir ce que les juges et l'Église voudront dire. Je veux obéir du tout à leur ordonnance et volonté. Ne voulez-vous plus soutenir vos apparitions? Réponse. Je m'en rapporte aux juges et à notre Sainte Mère l'Église. Fin de la citation. Alors on lui fit signer une cédule d'abjuration. Il faut se rappeler que le bourreau attendait au pied de l'échafaud et que Jeanne, revenue à elle-même, pleura amèrement cette défaillance. Ces témoignages prouvent, premièrement, que Jeanne a voulu croire tout ce qu'une bonne chrétienne est tenue de croire, et en particulier, elle a cru à l'infaillibilité de l'Église. Par conséquent, si l'on trouvait quelque chose d'erroné dans ses sentiments sur l'obéissance due à l'autorité ecclésiastique, cette erreur serait purement matérielle. Il prouve deuxièmement, que Jeanne en a véritablement appelé au pape. Quel était le sens de son appel au pape? D'après les pièces du premier procès, elle aurait demandé que son affaire fût soumise au pape, à qui elle déclarait s'en rapporter. Notre sire premier servi, cimetière de Rouen, 24 mai. Le second procès, ici le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1, qui dit ce qui suit. Voici ce qu'il en est dit dans la sentence d'absolution. Les Anglais, entre guillemets, n'ont point voulu admettre et accepter les submissions, récusations et appellations d'Icelle, requérant être menée au pape, se rapportant de son cas au Saint-Siège apostolique. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Le second procès accentue beaucoup plus la déclaration d'obéissance et omet la réserve faite par ces mots, notre sire premier servi. Fin de la citation. Terme qui, dans la bouche de Jeanne, excluait la soumission pour le cas où le pape aurait condamné ses révélations. Le sens indiqué par le premier procès paraît le seul vrai, puisqu'ailleurs Jeanne déclare toujours qu'elle n'obéira pas à l'Église si l'Église condamne ses voies. On se demandera peut-être quelle est alors la portée de son appel. Jeanne en appelle au pape parce que le pape est le supérieur des juges indignes qui siègent à Rouen, parce qu'elle le suppose indépendant de l'influence anglaise et qu'elle espère le persuader de l'origine divine de ses révélations, origine qui lui semblait évidente pour tout homme exempt de préjugés et de pression extérieure. Elle en appelle au concile de Bâle, parce qu'on lui a dit que cette assemblée comptait autant de membres du parti français que du parti anglais. Son appel au pape avait donc pour effet immédiat, s'il était accepté, de la soustraire à des juges qui étaient des ennemis, et assurait le triomphe de sa cause. Il prouve, troisièmement,
deux points, que Jeanne a constamment et formellement refusé de se soumettre à la décision de l'Église militante. Dans le cas où cette Église déclarerait ses révélations fausses et lui commanderait, entre guillemets, chose contraire aux ordres de ses voies. Fin de la citation. Ce refus blessait-il l'obéissance due à l'autorité ecclésiastique? Était-ce un acte de rébellion contre l'Église? Et Jeanne doit-elle être considérée comme un martyr de la libre pensée? Toute l'histoire de Jeanne nous a montré en elle une sainte chrétienne, remplissant scrupuleusement tous ses devoirs religieux. Il serait donc bien étonnant de la voir faillir en ce point si grave de l'obéissance à l'Église. Aussi, en examinant bien ce fait, n'y trouve-t-on rien qui sente la révolte, l'insubordination contre l'autorité religieuse? Qui veut bien peser et bien comparer les réponses de l'accusé l'absoudra de tout reproche de désobéissance. Qu'est-ce que Jeanne refuse? Est-ce de se soumettre au jugement de l'Église? Non, elle ne veut pas s'y soustraire. Elle est bonne chrétienne et se reconnaît sujette de l'Église et de notre Saint-Père le Pape. Elle demande qu'on la conduise à Rome. Quant à la soumission à l'Église, dit-elle à Erard le 24 mai, au cimetière de Rouen. Je leur ai déjà répondu, je leur ai dit en ce point que toutes les choses que j'ai dites ou que j'ai faites soient envoyées à Rome, de vers notre Saint-Père le Pape, auquel et à Dieu premier je me rapporte. Trois points. Je m'en rapporte à Dieu et à notre Saint-Père le Pape. Fin de la citation. Ce que Jeanne refuse, c'est deux points. Premièrement, d'accepter la décision du tribunal où siègent ses ennemis. Elle récuse comme juge Cochon et ses assesseurs. Son refus était légitime. On a toujours reconnu à l'accusé le pouvoir de rejeter la sentence de juges inférieurs qui lui sont suspects. Et certes, ceux de Rouen étaient bien suspects à la pucelle. Leur haine contre les Français, leur lâche servilisme pour les Anglais, leur mépris des règles de la procédure enlevaient à leur sentence les conditions d'impartialité et de vérité qui imposent la soumission. Récuser le jugement de pareils hommes, c'était le droit de Jeanne. C'est en vain qu'ils veulent se donner eux-mêmes pour cette Église militante dont ils parlent. L'accusé comprend dans sa simplicité que de tels hommes ne sont pas, dans ces circonstances, les représentants de cette autorité qu'elle respecte et qu'elle vénère. Ce que Jeanne refuse, c'est deux points. Deuxièmement, de se soumettre à la décision de l'Église militante, dans le cas où cette Église condamnerait ses révélations comme ne venant pas du ciel. Ce refus prouve-t-il un esprit d'insubordination dans la pucelle? Pas plus que le précédent. En effet, ou bien Jeanne croyait à l'infaillibilité de l'Église en ce qui concerne l'origine de ses révélations, ou bien elle n'y croyait pas. Si elle y croyait, son refus de soumission, si formel en apparence, était nul en réalité. D'autre part, en effet, Jeanne était certaine que l'Église ne pouvait errer. D'autre part, elle était certaine de l'origine divine de ses voies et obligée d'y croire de foi divine. Elle avait donc aussi la certitude que ses révélations ne seraient jamais condamnées par l'Église et que son refus de soumission était attaché à une condition impossible, irréalisable. Ces paroles ne sont pas l'expression d'un refus, mais l'attestation de la vérité de ces révélations. Si elle ne croyait pas à l'infaillibilité de l'Église touchant ce point particulier, ou si, ce qui me paraît le plus probable, elle était dans l'ignorance par rapport à cette question, elle pouvait légitimement, elle devait même refuser. Contre un doute, elle a une certitude. Elle doute si l'Église se trompera ou non sur l'origine de ses voix, et elle a la certitude absolue que ses révélations sont divines. N'est-ce pas à la certitude qu'elle doit s'en tenir? On le voit, en toute hypothèse, sa conscience de catholique reste pure de toute tache de rébellion. Quant à son ignorance sur ce point, elle n'a rien qui puisse nous étonner. Deux points. Jeanne était une pauvre paysanne à qui sa mère n'avait appris que le pater, l'ave et sa créance. On n'a pas le droit de taxer Jeanne de témérité ou d'obstination pour avoir voulu défendre contre tous l'origine divine de ses voix. En effet, la parole immédiate de Dieu s'impose à celui qui l'entend et emporte sa foi. Lui résister serait d'ordinaire aussi impossible que criminel. Jeanne avait donc une foi infuse et divine en ses révélations, et ne pouvait s'empêcher les révoquer en doute. Si l'on veut bien considérer les choses, sa conduite, qui de prime abord pourrait sembler assez louche, mérite au contraire toute notre admiration. Quelles angoisses, en effet! Ne dure pas torturer cette conscience mise en demeure de se prononcer entre la parole immédiate de Dieu et la parole de l'Église parlant au nom de Dieu. Elle sait que la voix de ses révélations et la voix de l'Église sont également infaillibles. Et d'après le sentiment de ses juges, ministres de l'Église, ces deux autorités se contredisent. Une foi vulgaire eût succombé, celle de Jeanne ne faillit pas. Notre héroïne sait garder en même temps sa croyance dans les vérités chrétiennes que l'Église nous propose à croire et dans la parole de Dieu qui lui commandait de sauver la France. C'est donc en vain qu'on a prétendu faire de Jeanne un martyr de la libre pensée. Elle a constamment rendu à Dieu et à son Église l'obéissance qui leur est due. Fin du 6e chapitre de l'étude sur Jeanne d'Arc, écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jauger.